Raconte-moi une histoire.
Bonjour, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires sur Canal B. Et aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous raconte les aventures, les contes et légendes du roi Arthur. Et bien, nous continuons. Figurez-vous qu'elles sont longues, ces aventures. Et aujourd'hui, c'est Galahad, le châtel des pucelles. Alors, le monde était vaste et le siège périlleux toujours vacant. À la table ronde, c'est ainsi que l'on nommait la place à la droite du roi. Merlin avait annoncé que seul le meilleur des chevaliers pourrait s'y installer, celui qui était promis à accomplir la quête du Graal. Durant un temps, tous pensèrent que Lancelot possédait la dignité de s'y asseoir car sa vaillance était légendaire. Ensuite, à la cour, chacun parlait de Perceval pour prétendre à cet honneur. N'était-il pas le plus acharné dans la recherche du Saint-Calice ? Pourtant, un matin, un nom apparaît sur le dossier prestigieux. Un nom inconnu de tous, Galahad. Tous se posent des questions quant à l'identité de ce mystérieux chevalier. À peine les lettres magiques se sont-elles gravées dans le bois que déjà tout le château en bruissait. Ainsi, personne ne porte attention à un jeune homme, avait-il 14 ans, qui se présente ce même jour aux portes de Camelot dans l'espoir de se faire adouber par Arthur. Il reste perplexe devant l'agitation qui règne dans la citadelle. Sa surprise grandit encore à la réaction de la garde après qu'il ait décliné son nom d'identité. « Je me nomme Galahad et je souhaiterais obtenir audience auprès du roi. » Un soldat, les yeux ronds, le saisit par le bras et l'entraîne à la salle du trône, clamant à tue-tête « Je l'ai, Galahad, je l'ai, il est là !» La foule s'épaissit, à leur suite plus ils avancent, et tout ce que Camelot peut rassembler d'âmes se tient massé autour d'eux quand le jeune écuyer se présente devant Arthur. Le pauvre garçon reste stupéfait, mais il n'a encore rien vu. En un tour de main, il se trouve agenouillé, Excalibur naviguant sur ses épaules, le voilà chevalier. On le presse à la table ronde où on lui assigne un siège à son nom. Le voilà meilleur d'entre tous. On l'assomme de paroles, il est promis aux plus hautes destinées. Il va accomplir la quête du Graal, il possède le cœur pur qui seul peut prétendre au Saint-Calice. Pour le pauvre, c'en est trop. Il refuse d'y croire. Lui, un garçon sans expérience, il n'a brandi l'épée que pour s'entraîner, n'a jamais versé le sang, ils se trompent tous. Il voudrait protester, mais déjà, on le mène à travers le château. Le forgeron et le tailleur royal prennent ses mesures. Le premier lui promet la plus belle des armures et le second la plus fastueuse des toilettes. Des jeunes filles se disputent l'honneur de le coiffer et de le parfumer. Que, qui a l'habitude de malmener les novices, le gratifie d'une bourrade amicale et le seigneur Perceval d'émotion pose un genou à terre à sa rencontre. Ainsi, sans même avoir le temps de réaliser ce qui lui arrive, Galad se retrouve assis à la table royale devant toute la cour assemblée. Arthur lève sa coupe et prononce un discours enthousiaste en l'honneur du nouveau venu. Vient son tour de parler. « Je ne suis pas celui que vous attendiez », déclare-t-il, la gorge nouée. « Certes, le siège périlleux indique mon nom, mais peut-être s'agit-il d'un autre Galad. Je suis navré de vous détromper, mais je ne peux être le chevalier au cœur pur. » Après ces quelques paroles et malgré la consternation générale, il se détourne et sort. Comment demeurer à Camelot après la déception qu'il vient d'infliger à tous et en premier lieu au roi ? Accablé, il passe aux écuries récupérer sa monture et quitte les lieux. Galad erre sans but. Devenir le meilleur d'entre tous parce qu'un siège magique l'a décrété, il n'en espérait pas tant. Il souhaitait simplement se faire novice, apprendre l'art de la chevalerie et combattre aux côtés d'Arthur. Il ne sait comment agir à présent que ce projet lui est interdit. Alors qu'il passe un pont au-dessus d'un maigre ruisseau, des appels à l'aide le tirent de ses amères réflexions. Il éprend son cheval et s'enfonce dans la forêt. Une jeune fille, terrifiée, se tient agenouillée tandis que deux hommes en armes tournent autour d'elle avec leurs montures. L'un d'eux la saisit par la chevelure au moment où Galahad intervient, l'épée au clair. Surpris, les deux cavaliers abandonnent leur victime pour disparaître parmi les arbres. Déjà, ils descendent de selle pour rassurer la pauvre enfant. « N'ayez crainte, vos agresseurs sont partis. Ils voulaient me mener dans leur château, » dit-elle dans un sanglot. D'une main tremblotante, elle indique, par une trouée dans le feuillage, un donjon sinistre. « Le châtel des Pucelles, explique-t-elle. Sept frères et leurs soudards terrorisent la région depuis cette place forte. Voilà 7 années qu'ils enlèvent toutes les filles des environs pour les maintenir prisonnières. Quelle ignominie ! Galahad ne peut réprimer sa colère. Il doit porter secours à ses jouvencelles. Ils sont trop aguerris et trop nombreux pour un seul homme, se récrie la pauvresse. Les affronter serait une folie. Pourtant, on raconte qu'un grand corps d'argent est disposé au sommet de la tour. » Sa sonnerie résonne sur tout le royaume de Bretagne. À son appel, tous les chevaliers viendraient et la victoire deviendrait possible. Galahad, après avoir escorté la jeune fille dans un lieu sûr, gagne sans détour le châtel des Pucelles. Il lui est inconcevable de laisser une journée de plus d'innocentes femmes aux griffes de ces misérables. Nulle peur n'étreint son cœur. Pour autant, il n'agit pas avec inconscience. Il sait les risques qu'il encourt, mais préfère la mort à l'abandon de ces malheureuses à leur sort. Pour lui, un chevalier, avant de se déclarer homme de guerre, doit s'instaurer défenseur des faibles contre la violence des forts. Il a toujours considéré les choses ainsi, et sa décision de se présenter à Camelot pour se faire adouber n'était pas motivée par des rêves de gloire, mais par un désir profond d'aider son prochain. Des moqueries grasses et stupides l'accueillent. Les 7 frères et leurs troupes se tiennent devant le donjon. Chacun d'eux dirige 7 cavaliers et chacun de ces cavaliers commande à 7 fantassins. Ils forment une véritable armée et ce jouvenceau ose les défier. Il y a vraiment de quoi rire. L'aîné des bandits toise l'intrus. Qu'avons-nous là ? Pas même un coq, un simple poulet. Tous les hommes éructent leur iralité à cette raillerie. Galahad ne bronche pas et tire la lame de son fourreau. Mais c'est qu'il veut se battre. Poulet, poulet, viens par ici, mon poulet. Le preux s'avance et sans attendre, il frappe. L'autre par le cou avec un méchant sourire. Les passes d'armes s'enchaînent sous les vivats des larrons qui encerclent à présent les combattants. Le gaillard s'amuse de cet impudent et se contente de repousser ses attaques pour l'épuiser. Seulement, cet avorton ne connaît pas la fatigue et nulle perle de sueur ne souille son front. L'aîné des frères s'agace et décide d'en finir. Son coup d'estoc est certes puissant mais sans finesse. Galahad l'esquive et sans sourciller tranche le bras de son ennemi. Sans même un grognement de douleur, le chef des scélérats ramasse son arme et repasse à l'offensive de sa main valide. Il semble invincible en dépit de sa terrible blessure. Même s'il venait à succomber, resteraient les six autres frères, les cavaliers et les fantassins. Malgré sa ténacité inépuisable, le jeune chevalier ne saurait leur tenir tête à tous. Profitant de l'émotion suscitée par la cruelle mutilation infligée à leur meneur, Galahad force sa monture et enfonce le cercle ennemi. Il assène les coups de part et d'autre, son but, atteindre le donjon. On agrippe ses mollets, on taillade les flancs de son destrier. Il ne doit son salut qu'à son agilité et à son sang-froid. D'un bond, il saute de selle et se glisse entre les jambes de ses assaillants. D'une roulade, il franchit le rempart d'épées et de lances qui se dressent entre lui et son objectif. Sa célérité à la course, malgré son armure et le combat livré, fait le reste. Poursuivi par la meute, il parvient à la tour laissée ouverte. Galahad s'élance dans l'escalier sans reprendre son souffle. Une fois au sommet, il trouve enfin une porte à opposer à ses adversaires. Il la ferme et en bloque l'ouverture. Il sait que cette maigre protection ne tiendra pas longtemps. Déjà, les ennemis s'acharnent à l'abattre. Le corps d'argent est bien là, encastré dans la pierre de la muraille, ce qui avait empêché les brigands de s'en saisir. Galahad appose ses lèvres et fait puissamment résonner l'instrument. L'écho se propage par-delà la forêt. L'appel est lancé à travers tout le pays de rallier le châtel des Pucelles. La porte vient de céder. Déjà, il faut défendre sa vie. Heureusement, les ennemis ne peuvent franchir qu'un à un les trois passages. Galahad pourfend le premier, assomme le deuxième, pousse le troisième de la muraille. Ainsi s'enchaînent les assaillants et toujours nul fatigue d'alourdir les gestes du héros. Combien de temps pourra-t-il tenir ? Il a cessé de compter les adversaires abattus quand l'aîné des frères enjambe le seuil. Un garrot enserre son bras sectionné et un rictus vengeur défigure ses traits. Alors même qu'il échangent leur premier coup, des galops retentissent au pied du château. Les chevaliers de la table ronde menés par Arthur reviennent en renfort. Le soir, la place est tombée et toutes les jouvencelles retenues prisonnières dans les sous-sols du donjon sont libérées. Les sept frères ont trépassé, le reste de la troupe est en fuite. Arthur félicite Galahad pour sa bravoure. Malgré la férocité du combat, le jeune homme ne souffre d'aucune blessure, d'aucune fatigue. Il est heureux que tu aies pu souffler dans le corps d'argent. Cet instrument est magique et nul ne peut le faire retentir si ce n'est le cœur le plus pur. Galahad, tout prouve que le siège périlleux ne s'est pas trompé quand il t'a désigné. Ton exploit d'aujourd'hui suffit à en témoigner. Vas-tu te rallier à ma bannière ? Vas-tu accepter ta destinée et te mettre en quête du Graal ? L'état d'esprit de Galahad après cette épreuve se trouve transformé. Il pose genou à terre et renouvelle son allégeance. Dans la nuit, quand les troupes quittent le châtel, c'est aux côtés du meilleur chevalier du monde qu'Arthur regagne Camelot. Le cœur du roi s'emplit d'espoir pour la première fois depuis des années. La fin des temps aventureux s'annonce. Puisse-t-elle être glorieuse ? Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire de Galahad, le châtel des Pucelles. La semaine prochaine, eh bien, j'ai bien envie de continuer car ce n'est pas terminé. En plus, s'ouvre un nouveau chapitre de Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, la mort d'Arthur, la fin des temps aventureux. Oh là 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 là. C'est peut-être pas la fin, hein. Si, vous allez voir. Allez, ciao, bye bye, c'était Doué qui vous racontait toujours et encore des histoires.